VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
16h à Nouakchott, 17h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. Élection au Niger, le gouvernement nigérien rejette les assertions de l'opposition qui dénonce des fraudes électorales de la part du parti au pouvoir et refuse de reconnaître les résultats des présidentielles annoncées depuis la veille par la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Le ministre de l'Intérieur a soumis, Massaoudou a déclaré à l'AFP que les élections avaient été conformes aux standards internationaux. Cela fait longtemps qu'ils disent qu'ils ne reconnaîtront pas les résultats. Ce n'est pas une surprise, a précisé M. Massaoudou, faisant référence au leader de l'opposition. Il a conclu en disant « Si nous perdons, nous partirons sans problème. Si nous gagnons, nous restons. » Fin de citation. Côté opposition nigérienne, on assure avoir la preuve des fraudes électorales perpétrées par le parti au pouvoir. En témoigne la déclaration d'Amadou Boubacar Cissé, porte-parole de la coalition des partis d'opposition, la COPA, aujourd'hui, pour dénoncer les activités du gouvernement en ce sens. Un extrait de ses propos recueilli par notre envoyé spécial à Niamey, Nicolas Pinault.
Depuis le 22 février, alors que les opérations de dépouillement ne sont même pas terminées, dans de nombreuses localités, la CENI diffuse des résultats pour le moins fantaisistes. Les résultats sont en désaccord total avec les données réelles récoltées par les représentants des partis membres de la COPA 2016. À Zinder et dans bien d'autres régions, les résultats proviennent de milliers de bureaux de vote fictifs. Dans nombre de zones où le PNDS a été largement battu, la CENI présente des résultats surprenants qui nous montrent clairement que le président Issoufou Mahamadou persiste dans son illusion de coup chaos qu'il veut imposer par une trituration irresponsable des résultats du vote sanction des populations nigériennes. En fait, les représentants du PNDS à la CENI dispose déjà de la totalité des résultats fabriqués sur toute l'étendue du territoire qu'ils font valider et publier par la CENI qui agit ainsi par une grave complicité. En tout état de cause, les partis de la COPA 2016 ne permettront pas de voler les suffrages du peuple nigérien. Nous confronterons en temps opportun nos données et celles dont ils disposent. Face à cette situation très grave, la COPA invite tous ses militants à se mobiliser comme un seul homme pour contrer le coup de force en préparation et défendre la légitimité populaire qui s'est exprimée dans les urnes.
Amadou Boubacar Cissé, porte-parole de la coalition des partis d'opposition, la COPA au Niger, a noté que l'Union africaine, qui avait déployé 40 observateurs sur le terrain, a globalement approuvé l'organisation des élections, tout en critiquant des retards et l'absence fréquente d'affichage des listes et des membres des bureaux de vote.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Au Tchad, la marche pacifique de l'opposition démocratique n'a pas eu lieu ce matin à N'Djamena, faute d'autorisation de la part du gouvernement. Le point avec notre correspondant sur place, André Kodmajingar.
L'espace Fest Africa, qui constitue le point de départ de cette marche pacifique, a été pris d'assaut très tôt le matin par le service de sécurité. Une trentaine de véhicules bourrés des éléments de la police et de la gendarmerie nationale, ainsi que des chiens anti-émeutes, attendaient de pied ferme les manifestants. Regroupés devant le domicile du chef de file de l'opposition, brandissant les pancartes où on peut lire « Non à l'injustice, non à la répression de la jeunesse tchadienne, non à un cinquième mandat pour Déby, non aux violations des droits humains », les militants de ces partis politiques de l'opposition attendait le mot d'ordre de leur leader pour croiser le fer avec les agents de sécurité. Saleh Kebsabo, chef de file de l'opposition, sort de la maison et lance cet appel aux militants.
Nous sommes devant un dilemme qui est grave parce que la marche est interdite et on le sait depuis hier. On ne peut donc pas se regrouper à Fest Africa pour démarrer notre marche.
Cette marche avortée risque d'entamer la crédibilité du chef de file de l'opposition car beaucoup de ses compagnons de lutte se disent déçus parce que Saleh Kebsabo a fléchi face à cette menace de peur que sa candidature ne soit invalidée à la présidentielle par le Conseil constitutionnel. André Kodumadjingar, N'Djamena, La Voix de l'Amérique.
En RDC, visite éclair du secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon aujourd'hui dans un camp de déplacés de la province du Nord Kivu dans l'est du pays. En provenance de Goma, chef-lieu de la province, après Bujumbura au Burundi voisin, Ban Ki-moon a passé plusieurs heures au camp de Mungote à Kichanga, localité de 80 000 habitants à environ 80 km au nord-ouest de Goma. Le gouvernement de la RDC menace de fermer plusieurs camps au nord Kivu, une décision qualifiée de punition collective à l'encontre des déplacés par l'OCHA, le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU. Selon l'OCHA, c'est la découverte d'une arme dans une hutte du camp de déplacés de Mokoto dans la province qui a motivé la décision des autorités congolaises. Le gouvernement provincial du Nord Kivu a d'ailleurs démantelé le camp en question. Crise au Burundi voisin, le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon a obtenu l'engagement du président Pierre Nkurunziza d'ouvrir un dialogue inclusif avec son opposition. Des promesses acquises après des consultations ce mardi avec le chef de l'État burundais. Messieurs Ban et Nkurunziza ont confirmé cet engagement lors d'une conférence de presse conjointe avant le départ du numéro 1 de l'ONU pour Goma en RDC, deuxième étape de la tournée africaine de Ban Ki-moon. Les grandes lignes de la visite de deux jours de Ban Ki-moon au Burundi avec notre correspondant à Bujumbura, Christophe Nkurunziza.
Ban Ki-moon, après avoir rencontré lundi soir des dirigeants de quatre formations politiques les plus représentatives, dont Agathon Gwasa, Charles Nditije, Léonce Nguendakumana et Pascal Nyavenda, s'est entretenu avec le numéro 1 burundais ce mardi matin. Des questions de l'heure ont été abordées, tel le dialogue inclusif sans faux-fuyant avec les responsables des partis politiques qui sont aujourd'hui en exil. En outre, Ban Ki-moon a indiqué qu'au moins 2000 prisonniers politiques vont être libérés et que d'autres gestes de ce genre seront pris demain pour montrer la bonne foi du gouvernement. Pierre Nkurunziza, quant à lui, s'est félicité de la collaboration avec les Nations Unies, où les militaires et policiers burundais collaborent étroitement avec les Nations Unies en Somalie, en République centrafricaine et dans d'autres pays. Pour le président burundais, cette collaboration sans faille va continuer pour les biens de Burundais et des Nations Unies. Des preuves ont été données à Ban Ki-moon qui montrent que le Rwanda entraîne des réfugiés burundais sur le territoire rwandais, selon toujours le président burundais. Mais pour Ban Ki-moon, il faudra toute la détermination collective de tous les Burundais et de leurs partenaires régionaux et internationaux pour remettre le Burundi sur la voie de la paix, du développement et de la réconciliation. Pour Ban Ki-moon, il n'y a pas de temps à perdre. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
À noter que les violences ont continué au Burundi pendant la visite du secrétaire général de l'ONU. Une dizaine de grenades ont explosé dans la nuit de lundi à mardi et ce matin à Bujumbura, faisant une dizaine de blessés selon la police.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
L'actualité aux États-Unis maintenant, le président américain Barack Obama a présenté aujourd'hui un plan pour fermer la prison de Guantanamo, jugeant que cette dernière était néfaste pour la sécurité nationale des États-Unis et était contraire aux valeurs de l'Amérique. Par ailleurs, le président américain s'était entretenu hier avec son homologue russe Vladimir Poutine pour évoquer la trêve qui doit entrer en vigueur le 27 février dans le conflit en Syrie. Plus de détails avec Chérubin Dorsil.
Tout de suite après l'annonce du cessez-le-feu, Washington et Moscou ont insisté sur la responsabilité de tous les protagonistes dans sa mise en œuvre. À la demande du président Vladimir Poutine, souligne la Maison-Blanche, le chef de l'exécutif américain a eu un entretien avec le dirigeant russe hier, où il a notamment mis l'accent sur la nécessité du respect de l'accord par toutes les parties. M. Poutine a promis que son pays fera le nécessaire pour que Damas observe le cessez-le-feu. Il dit espérer que les États-Unis feront la même chose avec les groupes rebelles syriens. A signalé que les attaques contre le groupe État islamique et le front al-Nusra, la branche syrienne d'Al-Qaïda, continueront malgré le cessez-le-feu. Le président russe a annoncé que la Russie et les États-Unis sont prêts à mettre en place un mécanisme effectif de contrôle du respect de l'accord. Vladimir Poutine a aussi précisé qu'une ligne directe de communication sera créée, ainsi que, si nécessaire, un groupe de travail pour échanger des informations. Les premières réactions à ces déclarations sont positives. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a salué un signal d'espoir tant attendu pour la population syrienne. À Londres, le ministre des Affaires étrangères, Philip Hammond, fait remarquer que s'il est mis en œuvre pleinement, cet accord constituera une étape importante pour faire baisser la violence et contribuer au règlement politique du conflit syrien.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.